Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient, RFI vous donne la parole pour commenter l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce matin, nous lancerons le débat sur la crédibilité du Conseil de sécurité de l'ONU. Hier, vous le savez, s'est ouvert à New York la 70e Assemblée générale des Nations Unies. Et parmi les dossiers débattus, il y a la réforme du Conseil de sécurité. Car plusieurs pays affirment que cette instance créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale n'est plus représentative du monde d'aujourd'hui. La chancelière allemande, par exemple, Angela Merkel, affirme qu'un développement du Conseil de sécurité avec davantage de membres permanents serait mieux à même de gérer les grandes crises internationales. L'Allemagne réclame donc un siège de permanent, tout comme l'Inde, le Japon, le Brésil. L'Afrique convoite également deux places au Conseil de sécurité. D'ailleurs, pour le président sud-africain qui s'est exprimé hier à la tribune des Nations Unies, il est inconcevable que l'Afrique, avec son milliard d'habitants, ne soit pas mieux représentée. Il a d'ailleurs ajouté « Nous ne sommes plus des colonies, nous sommes des États indépendants et souverains. » Alors, une réforme du Conseil vous semble-t-elle indispensable? Le Conseil de sécurité de l'ONU est-il encore crédible? Vos réactions nous intéressent. Vous nous rejoignez évidemment au standard 33 9 693 693 70 09 693 693 70. Si vous êtes en France, sans oublier les réseaux sociaux évidemment, je lirai quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Hakim nous appelle de Dakar, au Sénégal. Bonjour Hakim.
Bonjour Juan.
Bienvenue sur notre antenne. Vous avez-vous des questions sur les élections de dimanche dernier en Catalogne?
Tout à fait, monsieur Juan. Vous conviendrez avec moi, le dimanche passé, l'Espagne a organisé des élections régionales. Donc à ce sujet, j'ai deux questions. La première, je voulais juste savoir, si la Catalogne accédait à l'indépendance, est-ce que le FC Barcelone pourra continuer à jouer dans le championnat espagnol, dans la Liga?
Ah, ça c'est la question que se posent tous les passionnés du Barça et du football espagnol en général. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan.
Merci
bonjour
d'être Hakim. Avec nous. Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. C'est vrai que le scrutin de dimanche a donné une certaine légitimité aux indépendantistes. Ils entendent bien lancer le processus vers l'indépendance, même s'ils n'ont pas obtenu, et c'est important de le rappeler, la majorité absolue en nombre de voix. Mais l'avenir des clubs catalans, alors à l'instant Hakim parle du Barça, mais on peut parler aussi des clubs de basket, d'handball, etc. Quel est l'avenir si jamais le scénario de la sécession se concrétise?
Et voilà, comme vous l'avez dit, ce scénario semble pour l'instant assez improbable, mais effectivement, la logique voudrait que si la Catalogne devenait un jour un État indépendant, Barcelone et les autres clubs catalans quittent les championnats espagnols pour créer leur propre championnat. C'est vrai que c'est un sujet qui embarrasse beaucoup les partis indépendantistes, car dans la campagne, ils essayaient d'éluder les sujets en indiquant que tout était possible, etc., pour ne pas dissuader les supporters de Barcelone de voter éventuellement pour eux. Mais dans les faits, ça paraît quand même inenvisageable d'imaginer Barcelone continuant à jouer la Liga espagnole, oui, alors que Barcelone et la Catalogne auraient quitté l'État espagnol dans des conditions qui ne seraient pas forcément très amicales et très harmonieuse. Oui.
Le président de la Ligue espagnole a pris la parole, il a dit si la Catalogne devient indépendante, plus de clubs catalans dans le championnat espagnol. Le ministre des Sports a également pris la parole, donc il y avait quand même, on voit bien, une volonté, oui, des autorités de dire attention, vous aimez le Barça, vous souhaitez que le Barça continue à être ce club européen tel qu'il est aujourd'hui, eh bien faites attention à ce que vous allez voter dimanche.
Bien sûr, tout en reconnaissant que c'est un sujet relativement périphérique, j'espère que les électeurs catalan ne se prononce pas sur ce sujet en pensant surtout au football ou au basket. Mais c'est vrai que les exemples qui font un peu école au sein de l'Europe plaident pour une séparation. On l'a vu avec la Tchécoslovaquie, donc la République tchèque et la Slovaquie ont organisé leur propre championnat, avec l'Union soviétique également. Chaque État issu de l'Union soviétique a organisé son propre championnat, de même en ex-Yougoslavie. Alors, ceux qui défendent l'idée que Barcelone pourrait continuer à jouer la Liga évoquent qu'il y a des clubs basés au Pays des Galles qui participent au championnat anglais, ou des clubs basés en Andorre qui jouent des championnats régionaux en Espagne, mais c'est pas vraiment les exemples qu'on a à l'esprit quand on pense à la Catalogne.
Bien sûr, et ce scénario évidemment de l'indépendance serait catastrophique pour le Barça sur un plan de notoriété internationale, sur un plan financier également.
Oui, voilà, les dirigeants du football espagnol disent que ce serait mauvais pour tout le monde, aussi bien pour les clubs non catalans que pour les clubs catalans, mais évidemment les clubs catalans et notamment le Barça seraient davantage perdants, car dans ce qui resterait de l'Espagne, il y aurait quand même le Real, l'Atlético.
Mais le Real sans le Barça, ce n'est plus vraiment le Real.
C'est plus vraiment le Real, ça c'est sûr. C'est un aspect qui va peut-être continuer à susciter des débats, mais il paraît difficile quand même que Barcelone puisse rester dans la Liga si un jour la Catalogne quitte
l'État. En tout cas, le règlement de la Ligue espagnole est très clair pour l'instant. Peut-être qu'il n'est jamais modifié, mais enfin. Hakim, vous avez une autre question ?
Oui, j'ai une deuxième question. C'est une question à deux volets. J'ai appris que Pep Guardiola s'est impliqué dans la campagne. Il soutenait l'indépendance. Donc, je voudrais savoir, premièrement, est-ce qu'il est populaire, comme l'a dit la RFI, il paraît qu'il est très populaire au niveau de l'Espagne. Et deuxièmement, je voudrais savoir s'il a participé à la campagne pour l'indépendance.
Alors, Pep Guardiola, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ancien entraîneur du Barça. Il a effectivement plaidé pour l'indépendance, mais il n'est pas le seul. Même l'actuel entraîneur, il a posté un petit tweet juste après avoir voté. Il a dit « Vive la Catalogne !»
Voilà. Oui, mais disons que Guardiola est allé un peu plus loin, et c'est l'une des rares personnalités de premier plan en Catalogne, en dehors du secteur politique, qui s'est vraiment beaucoup engagé. Il a participé au spot des campagnes pour la coalition Junts pour el Sí, ensemble pour le Oui, etc. Donc il a vraiment pris position. Alors notre ami Hakim demande s'il est populaire en Espagne. On peut dire que sa position a été vue des deux manières, selon la perception qu'on a de Guardiola entraîneur. Les gens de Barcelone et de Catalogne en général ont apprécié ce qu'ils considèrent un geste courageux et engagé. Et ceux qui sont essentiellement à Madrid et qui ne l'aimaient déjà pas comme entraîneur de Barcelone ont plutôt dénoncé les mélanges des genres et ont critiqué sa prise de position alors qu'il avait défendu comme joueur les maillots de l'équipe d'Espagne.
Effectivement, les dirigeants du Barça en deux mots, Alejandro Valente, sont restés neutres ou ils ont pris position durant la campagne électorale?
Voilà. Alors que l'ancien président João Laporta est très engagé avec les indépendantistes, et l'actuel président Josep Maria Bartomeu a choisi la neutralité en disant que Barcelone, qui était un club des dimensions internationales, ne devait pas se mêler des campagnes électorales locales, et donc il a un avis à titre personnel, mais il ne voulait pas engager son club dans ce débat.
Merci beaucoup Alejandro Valente, chef du service des sports, d'être venu répondre à Kim qui nous écoute à Dakar sur les 92 FM, 8h18 à Dakar justement. Autre question à la rédaction, Abdoul, bonjour.
Oui, bonjour Anne, et bonjour l'équipe des RFI.
Vous êtes au Niger, vous nous appelez de Zinder, et vous avez entendu sur notre antenne parler du retour de la peste aux États-Unis, et ça suscite chez vous plusieurs questions.
Oui, en fait, sur ce coup, j'ai deux questions. Comment expliquer le retour de la peste?
D'accord, bon, ça c'est la première question, le retour de la peste. Elisabeth Carniel est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct. Vous êtes la responsable de l'unité de recherche Yersinia à l'Institut Pasteur. Alors effectivement, les autorités sanitaires américaines ont constaté un nombre inhabituellement élevé de cas de peste. 11 cas ont été déclarés depuis le mois d'avril. 3 personnes en sont décédées. Est-ce que la peste est de retour aux États-Unis?
Alors tout d'abord, pour mettre les chiffres à jour, on en est à 15 cas et 4 morts.
D'accord, merci de les actualiser.
Voilà, donc le retour de la peste aux États-Unis, je dirais non. Parce qu'en fait, la peste est arrivée aux États-Unis en 1900, à San Francisco, et puis elle s'est répandue dans les différents états de la côte ouest des États-Unis, et depuis, il y a eu des cas tous les ans de peste aux États-Unis. Donc il n'y a pas de retour, il y a simplement maintien de la peste aux États-Unis. La différence avec ce que l'on voit habituellement, c'est qu'en général, c'est une moyenne de 7 cas par an, avec 0 à 2 morts. Et là, comme je vous l'ai dit, on en est à 15 cas et 4 morts. Donc, une augmentation du nombre de cas cette année, mais pas un retour.
D'accord.
Il y a la peste.
Ouais. Comment la peste a-t-elle pu donc ressurgir aux États-Unis? C'est la question initiale de notre auditeur.
Oui, donc là, elle n'a pas ressurgi. Simplement, cette année, il y a un cas un peu plus important qui a touché de nombreux États, Colorado, Californie, Nouveau-Mexique, Utah, Arizona, Oregon. Donc, ces différents États, ce n'est pas une épidémie. Et pourquoi la peste a pour réservoir les rongeurs. Et certaines années sont favorables à la multiplication, à la pullulation des rongeurs et des puces, qui sont le vecteur de la maladie. Et donc, cette année a dû être particulièrement favorable aux rongeurs, dont les écureuils, par exemple, les chiens de prairie et autres rongeurs que l'on trouve sur la côte ouest.
D'accord. Abdoul, vous avez d'autres questions?
Oui, j'ai une deuxième question. Et la maladie est-elle la même qu'auparavant ou bien a-t-elle évolué avec le temps?
Ah, parle-t-on de la même maladie? Elisabeth Carniel, que peut-on répondre?
Oui, donc oui, c'est clairement la même maladie. Le bacille de la peste a peu évolué. Il n'a pas en général acquis de résistance aux antibiotiques. Les seules que l'on voit, c'est actuellement, on a eu quelques souches à Madagascar. À rappeler d'ailleurs que Madagascar est le pays le plus touché par la peste au monde. Et le continent africain en particulier, le continent actuellement le plus touché. Beaucoup plus que les États-Unis. Et le bacille est le même. On ne peut pas expliquer plus de cas par des résistances aux antibiotiques. Par contre...
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que la maladie se soigne bien à condition, évidemment, de la dépister rapidement. Et elle se soigne bien grâce aux antibiotiques.
Tout à fait, tout à fait. Et par contre, pour revenir sur ce que disait cet auditeur, on peut effectivement parler malgré tout de retour de la peste. Pas aux États-Unis, puisqu'elle s'y maintient et il y a des cas tous les ans, mais dans différents pays du monde où en fait il n'y avait plus de cas depuis plusieurs décennies. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans.
Ah oui.
Et c'est le cas par exemple en Algérie où elle est revenue en 2003, il n'y en avait pas eu depuis Camus, la fameuse peste de Camus en 1945. En Afghanistan en 2007, où il n'y avait jamais eu un seul cas de déclaré. En Libye en 2009, au Kyrgyzstan en 2013 et en Russie en 2014.
D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup de toutes ces précisions, Elisabeth Carniel. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité de recherche Yersinia, l'Institut Pasteur. Abdoul, merci d'écouter RFI à Zinder, au nord du Niger. 10h23 à Paris, ce sont vos questions à la rédaction, comme tous les matins. Vos questions pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Avec nous, en ligne de Maroua, c'est au Cameroun. Younoussa, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Bienvenue sur notre antenne. Quelles sont vos questions?
Oui, j'ai des questions par rapport à l'accord conclu entre Israël et la Russie, par rapport à l'intervention, à la coordination des actions en Syrie.
Oui.
Alors, vu qu'ils ont ils n'ont pas les mêmes alliés, quel intérêt ont-ils à faire un tel accord?
Ah, effectivement, bonne question. C'est vrai que Israéliens et Russes n'ont pas les mêmes alliés dans la région. Et pourtant, il y a quelques jours, Benjamin Netanyahou et Vladimir Poutine se sont entendus sur un mécanisme pour, je cite, « coordonner l'action de leur pays en Syrie ». On va essayer d'y voir plus clair avec Masri Feki. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en géopolitique, auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen-Orient. Je citerai par exemple Israël, géopolitique et enjeux. C'est publié aux éditions Studirama. C'est vrai que cet accord peut paraître surprenant. Notre auditeur a raison. Israël et la Russie n'ont pas les mêmes alliés dans cette région. On sait que la Russie applique une politique pro-Bachar, une politique pro-iranienne, ce qui n'est pas du goût d'Israël.
C'est vrai. dirais quand même que c'est justement parce que la Russie et Israël n'ont pas les mêmes alliés dans la région qu'ils sont obligés de communiquer et de coordonner leurs actions militaires respectives lorsqu'il s'agit notamment d'intervenir en Syrie pour éviter tout incident. L'accord que vous venez de citer, alors il faut savoir que le Kremlin avait déjà proposé un tel mécanisme en juin 2014 et que donc l'idée n'est pas nouvelle. L'idée d'une coordination entre le Kremlin et le bureau du Premier ministre israélien pour éviter tout incident en Syrie n'est donc pas nouveau. Alors quelle est l'idée ? Eh bien l'idée tout simplement c'est que les Russes ont décidé d'intervenir en Syrie parce que l'armée syrienne est incapable de faire face à la menace de l'État islamique et est incapable de contrôler le territoire qu'elle contrôlait jusque-là. Et donc les Russes ont décidé d'intervenir. Seulement, cela pose un problème pour les Israéliens qui, de temps à autre, interviennent également militairement en Syrie parce qu'ils ont une ligne rouge, celle qui consiste à empêcher que le régime de Bachar el-Assad n'envoie des armes au Hezbollah au Liban. Le Hezbollah peut donc intervenir en Syrie, peut soutenir Bachar el-Assad, mais Bachar el-Assad ne peut pas lui envoyer des armes. Et donc les Israéliens interviennent par des raids aériens régulièrement pour empêcher que des armes ne soient entre les mains du Hezbollah.
On parle d'une dizaine d'attaques aériennes israéliennes visant justement ces armes destinées au Hezbollah depuis le début de la guerre, des raids qui n'ont jamais été confirmés d'ailleurs par Israël. Donc c'est ça l'idée de cet accord conclu la semaine dernière.
Oui, parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'Israël bombarde des installations russes ou des véhicules russes. Il ne faut pas non plus que les Russes bombardent des avions israéliens lorsqu'il y a des raids. Et puis on sait très bien que parmi les armes qui vont arriver en Syrie, qui ne seront pas toutes, bien entendu, entre les mains de l'armée régulière syrienne, mais entre les mains des combattants russes, on parle d'un millier de combattants. Et parmi ces armes, il y a des missiles anti-aériens. Et c'est cela qui inquiète le plus Israël, puisque comme on le sait, l'arme suprême pour Israël, c'est l'aviation. C'est ce qui fait la différence entre Israël et les armées voisines.
Avant d'accueillir un autre auditeur sur ce même dossier, Masri Feki, un mot tout de même sur cette décision de Netanyahou, finalement, de se tourner vers Moscou. Est-ce qu'il faut y voir, on va dire, une façon pour lui de marquer son désaccord de plus en plus flagrant avec l'administration d'Obama?
Non, je ne pense pas, non. Parce que c'est la relation avec les États-Unis est une relation qui est beaucoup plus importante que tout désaccord entre un premier ministre israélien et un président américain. Premier ministre israélien ne s'est pas tourné vers la Russie, ce sont les Russes qui se sont tournés vers lui avec beaucoup d'insistance depuis déjà juin 2014. Et c'est suite à la consultation du président Obama lors de sa dernière visite aux États-Unis que Netanyahou a accepté donc cette coordination avec la Russie.
Il nous reste 2 minutes. On accueille Lucien et vous aurez le temps de prolonger, Masri Feki, vos explications. Bonjour Lucien.
Bonjour.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, nous vous écoutons.
Et précisément des grands bassins.
Très bien.
Toujours sur la même thématique, comment va se faire cette coordination alors que la Syrie et Israël sont en conflit depuis plusieurs décennies?
Bon, Netanyahou, lui, parle d'un mécanisme visant à éviter les malentendus entre les forces israéliennes de défense et les forces russes. Concrètement, comment ça va se passer sur le terrain?
Concrètement, Israël avisera les Russes avant d'intervenir. À chaque fois qu'Israël aura à intervenir, il avisera les Russes. Et puis, parallèlement à cela, les Russes se garderont de fournir aux Syriens, à l'armée régulière, j'entends bien, des armes non conventionnelles ou des armes qui seraient susceptibles de rompre l'équilibre entre la Syrie et Israël. Et bien entendu, les Russes se garderont de soutenir ou d'appuyer de quelque façon que ce soit le Hezbollah. Concernant la question de l'auditeur, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de tension entre la Russie et Israël, qu'il ne s'agit pas de pays
Il a dit la Syrie.
Oui, la Syrie, oui. Mais les relations entre Israël et la Russie ont toujours été très bonnes. Un million de russophones vivent en Israël, je vous le rappelle, donc une majorité de ressortissants russes, qui entretiennent d'ailleurs d'excellentes relations généralement avec leur pays d'origine. Les relations commerciales entre la Russie et Israël sont aussi de très bon niveau, d'un bon niveau. Et puis, malgré la dégradation des relations entre Russes et Occidentaux dernièrement, notamment au sujet de la crise ukrainienne, Israël s'est gardé de prendre la moindre position ou des moindres critiques envers les Russes.
Ouais, effectivement.
Donc, je ne parlerai pas de tension pour décrire la relation.
Merci de toutes ces précisions, Masri Feki, docteur en géopolitique. À suivre, dans quelques secondes, un point complet sur l'actualité.